radio está abierto.
Morning edition from NPR News.
Lo que se reproduce en esto en la radio.
France Inter, le 18-20.
En 40 ans, on est passé de, je dirais, 2000, entre 2000 et 3000 girafes à peut-être moins de 10.
Mais où est Christelle alors? Christelle la girafe, le petit girafon, c'est sur ces traces que je vous emmène en Centrafrique avec des éco-sauveurs, ceux qui luttent contre les braconniers venus des pays voisins. Et ce sera l'escale reportage d'un jour dans le monde. Sous les radars et Virginie Pironon, vous l'avez entendu en Russie, en Italie et au Royaume-Uni. 18h50, l'Europe telle qu'on l'aime ou qu'on la quitte, comme tous les jeudis. Nous sommes à 100 jours et quelques des élections européennes. Mode d'emploi ce soir avec Angélique Boin. Et puis le monde à l'envers de Jean-Marc Four qui veut rendre hommage à la commission sur le dossier Alstom-Siemens. Mais d'abord, nous allons en Inde. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
En 2014, c'était hier, les nationalistes hindous emmenés par Narendra Modi avaient infligé un terrible revers électoral à l'historique parti du Congrès en Inde, cette immense démocratie la plus grande, 800 millions d'électeurs, imaginez-vous ça. Et depuis, Modi s'est montré omniprésent en faisant du yoga partout dans le pays. On a aussi beaucoup vu ces fameuses brigades nationalistes. Et puis depuis aussi, et maintenant à quelques semaines des élections du printemps, il est en très mauvaise posture, ce Modi. Il a mis la moitié de son pays dans la rue il n'y a pas si longtemps et les chiffres du chômage sont très mauvais. On a surtout appris cette semaine qu'il avait même voulu les cacher. Bonsoir Jean-Joseph Boileau.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, auteur de l'économie de l'Inde, de l'Inde pour les nuls, notamment votre dernier ouvrage s'appelle L'Inde ancienne au chevet de nos politiques. C'est publié aux éditions du Félin. La situation au moment où on se parle, là, les pires chiffres depuis les années 70, dit-on, en matière de chômage, il s'est complètement planté, Modi, est-ce qu'on dit ça comme ça?
Non, je crois qu'il faut vraiment faire très attention à pas passer d'un extrême à un autre. Il reste extrêmement populaire. Vous savez qu'on l'appelle le lion du Gujarat, donc je ne vendrai pas la peau de l'ours, en l'occurrence
ni du lion,
du tigre. Mais on dit en Inde, et c'est vrai que ce proverbe indien revient assez souvent ces derniers temps, « Ne blâme pas Dieu d'avoir créé le tigre, mais remercie-le de ne pas lui avoir donné d'aile. » Alors j'aime beaucoup cette sagesse indienne parce que son bilan n'est pas si catastrophique que ça. La croissance indienne est restée forte, 7-8%. Mais simplement par rapport à ce qui a été au début, cet engouement pour cet homme volontariste qui allait relancer la croissance après le Premier ministre Manmohan Singh, qui était quand même un peu vieillot, les affaires de corruption du Congrès. Il a, pendant 2 ans, plutôt séduit. Et puis, tout d'un coup, il y a eu effectivement une sorte d'enchaînement fatal où, après une décision vraiment bizarre, la démonétisation, en novembre 2016, les nouvelles économiques mauvaises n'arrêtent pas de s'enchaîner.
Alors d'abord, la démonétisation, c'était complètement surréaliste à notre échelle. Je vais caricaturer un peu, mais on a demandé aux Indiens de rendre tout leur argent pour en avoir du nouveau. Enfin, je dis ça de manière
exactement,
très caricaturale,
c'est
mais c'est
si,
ça que
donc,
ça veut dire.
Disait aux Français, vous ramenez tous les billets de 10, 20 et 50 euros, puisque c'était ça, et puis les pièces, vous les gardez. Et le problème, c'est qu'en Inde, 80% de la masse monétaire, ces billets-là, c'est utilisé tous les jours par les gens, pas par des, il n'y a pas de carte bancaire, il n'y a pas de chèque, etc. Et donc, tout d'un coup, c'est en novembre, et c'est au moment de la plus grande fête de l'Inde, le nouvel an, ce qu'on appelle Diwali là-bas, et donc ça a provoqué une chute très importante du chiffre d'affaires, et le petit business qui était très pro-maudit, a commencé, lui, à se retourner. Puis après cette affaire-là, il y a eu l'introduction chaotique d'une taxe, la TVA, qui était très utile. Je crois que personne ne nie cette nécessité. Mais là encore, il a plutôt mal géré, sur le plan technique, on va dire, ce dossier.
Mais alors, vous dites effectivement que c'est tout d'un coup. D'où vient cette idée de démonétisation, d'abord? Enfin, d'où ça sort?
Parce que, est-ce qu'on a, est-ce ça, c'est fantastique.
Quelqu'un l'avait déjà fait avant lui ou pas?
Alors, ça s'est fait dans pas mal de pays du monde, où, notamment marqué par des hyperinflations, ou lorsqu'il y a beaucoup trop de billets de banque qui sont faux. Là, en l'occurrence, c'était pas du tout recommandé. Et d'ailleurs, le gouverneur de la Banque centrale, Raghuram Rajan, s'y opposait, et il a démissionné très largement lié à cela. Simplement, avant d'ailleurs cela. Et simplement, il y avait un coup politique, c'est ce que j'appelle une victoire à la Pyrrhus. Il a effectivement tout d'un coup retiré, paralysé, stérilisé tous ses billets de banque, qui étaient en fait le moyen pour ses partis d'opposition, le Congrès en particulier, mais surtout un autre parti dans l'Uttar Pradesh, l'état le plus important de l'Inde. Il voulait faire un grand chelem politique, il leur retire en gros leur denier pour leur campagne électorale. Il gagne, mais de façon impressionnante, les élections régionales de l'Uttar Pradesh, et tout d'un coup, les mauvaises nouvelles s'accumulent.
Ce qu'on a vu récemment, puisque les Indiens sont descendus dans la rue, alors à l'échelle de l'Inde, quand on dit qu'ils descendent dans la rue, ça fait 200 millions de personnes. Alors c'est beaucoup. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire, très très sincèrement, Jean-Joseph Boileau, ramenez à nous, quand on dit qu'il y a 200 millions d'Indiens qui ont manifesté ce jour-là, c'était il y a un peu plus d'une dizaine de jours, qu'est-ce que ça veut dire? Si c'était chez nous, ce serait combien de personnes?
Vous faites 200 millions par rapport à 1,3 milliard, en gros, un sixième de la population, donc vous avez 10 millions de Français qui descendent dans la rue.
C'est énorme.
D'autant plus que c'était beaucoup de paysans. Hein, ce qui est très important, c'est que j'ai parlé des petits commerçants qui n'étaient pas très contents de cette démonétisation. Mais ce qu'on voit, c'est que là encore, on a un président des villes. Et ce président des villes a complètement laissé l'agriculture indienne, qui est confrontée à des mauvaises moussons et au changement climatique. Et on le voit, les prix des oignons avaient chuté de 85%. Imaginez.
Alors, dans la rue, on entend hausse du salaire minimum. On entend sécurité sociale universelle, on entend arrêt des privatisations, on entend réforme du droit du travail, on entend lutte contre le chômage. On a l'impression que tout ça vient de très loin, en fait.
Oui, mais faites attention là encore, parce que la ligne, on va dire politique, idéologique de Narendra Modi divise quand même profondément l'Inde. Alors d'abord, il faut faire attention, c'est très important, le système politique indien est un système de type britannique majoritaire. En fait, Narendra Modi gagne 31% des voix en 2014. On parle d'un raz-de-marée. Non, il n'y a pas de raz-de-marée. Par contre, comme le système politique majoritaire est cousu pour le premier gagne tout, eh bien, il a eu 62% des sièges. Donc, Narendra Modi n'a jamais été dominant sur le plan idéologique, contrairement à beaucoup de choses que j'ai entendues. Mais c'est clivant. Et il le fait exprès. Et ce qu'on appelle l'Hindutva, c'est-à-dire l'Inde aux hindous. Il joue cette carte-là pour espérer récupérer 80% des voix des hindous.
Et alors, j'allais vous y emmener. Est-ce qu'il en a fait trop? Alors, on sent bien. Effectivement, c'est un système un peu à l'américaine, au fond, dans le mode de fonctionnement. Mais y compris, d'ailleurs, son mode de fonctionnement, au fond, s'appuyer sur sa base et uniquement la base, ça aussi, c'est un vrai système à l'américaine. C'est ce qu'on voit chez Trump en ce moment.
Noyau dur.
Exactement. Est-ce qu'il en a fait trop, lui, dans son immense pays?
Et c'est ça qui est passionnant. Il a fait l'erreur. Il n'a pas suivi les recommandations de l'Arthashastra dont je parle dans ce livre, du sage Kautilya. Pendant 2 ans, il s'est tenu à carreau. Il a joué la carte de l'agenda économique. Et pendant 2 ans, ça s'est très bien passé, au point que, d'ailleurs, il était honni au plan international et que, vous avez vu, tous les chefs d'État sont allés le voir. Il était reçu partout, en grande pompe, etc. Et lorsqu'il cherche à faire le grand chelem politique avec la victoire de l'Uttar Pradesh, il va rentrer dans de l'agenda économique, il va passer à l'agenda idéologique et ça va se renforcer de mois en mois. Il nomme notamment un yogi à la tête de l'Uttar Pradesh, qui est un état où les musulmans sont vraiment majoritaires ou très très importants, qui interdit immédiatement de manger de la viande, de tuer des vaches, ce qui met 35 millions de familles sur le carreau. Et donc il joue cet agenda et il accentue l'agenda. Or, on attendait, la population indienne attendait Modi sur le plan économique et pas fondamentalement sur le plan de la Hindutva, de sorte que à chaque fois que j'y vais, je l'ai vu, de mois en mois, les gens sont excédés par cette Hindutva qui a mis à feu et à sang le pays. Les chrétiens, on va en plein dans les églises pendant l'office religieux contre les conversions, ils appellent ça les conversions des hindous, des basses castes en fait, qui souvent effectivement se convertissent à une autre religion pour échapper à cet ordre des castes.
Est-ce que c'était une manière de diviser pour mieux régner? Est-ce que c'était ça aussi ce qu'il pouvait avoir en tête? Et est-ce que du coup, on est à l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec une population très unie contre lui, finalement?
Alors, il va y avoir 3 mois de campagne électorale et ne sous-estimez pas Narendra Modi là-dessus. Mmh. C'est une bête, je l'ai vu tout à l'heure, là, devant le Parlement, il sort des phrases choc, etc. Puis il n'y a pas d'opposition unie. Mmh. Ça, c'est très, très important. Donc, même si dans les 3 scénarios qu'on dégage, celui de la victoire majoritaire de Modi, non. Celui d'une victoire assez courte, ça c'est possible. Mmh. Et puis l'autre, c'est l'opposition qui gagne, mais qui n'est pas très unie. Là-dessus, faut faire attention, il peut y avoir une instabilité, si vous voulez, de l'Inde.
Et c'est fou, parce que enfin, je veux surtout jamais faire de comparaisons qui n'en sont pas, mais on était en train de comparer effectivement avec la manière dont Trump a fonctionné, la manière dont le Parti républicain, et là aussi, ses alliés sont ne savent pas très bien sur quel pied danser, mais finiront par se rallier à lui, si ça veut dire gagner les élections. Est-ce qu'on est dans une espèce de labo de populisme à super grande échelle dans l'Inde, en fait?
C'est ce qui me frappe beaucoup. Je pense que vos auditeurs, c'est ça qui les intéresse. Ils intéressent assez peu l'Inde en tant que telle. Mais pour nous, il y a deux enjeux. Le premier, alors je suis économiste et je vais le placer parce que pour moi c'est important. La course à la croissance maximale, c'était ça le leitmotiv de Moody. Mmh. Est-ce que véritablement on peut au 21e siècle continuer à courir après cette idée de maximiser la croissance quand on voit tous les dégâts que ça représente? L'Inde est un terreau d'initiatives d'économie frugale. Là-dessus, Modi a jamais réussi à reprendre cette idée au bout. Et puis deuxièmement, alors ça, pour nous, même en France, c'est très important, ce laboratoire d'un populisme outrancier, nationaliste, religieux...
À l'excès.
S'il y a une alternance...
Un peu raciste, pardon. Est-ce qu'on...
Ah, pas profondément.
Voilà, très bien.
Okay. Mais s'il y a une alternance... Ça veut dire que pour la première fois, contre ceux qui veulent pas d'alternance avec ces régimes-là, pour la première fois, l'Inde démontre une chose, c'est que si vos institutions sont démocratiques, sont solides, alors il peut y avoir des expériences de ce type-là. Ça me frappe parce que vous avez fait le rapprochement avec Trump. Mmh. Mais oui, mais Trump, c'est la même chose. Trump ne peut pas imposer une dictature parce qu'il y a tout un ensemble d'institutions qu'il contrôle. Dans le cas de l'Inde, il y a trois institutions qui ont joué un rôle majeur. Sur le plan économique, qu'on le veuille ou non, la Banque centrale, c'est important. Il y a deux gouverneurs qui ont démissionné. Mmh. Et ça a commencé, évidemment, à inquiéter les marchés. Deuxièmement, c'est la Cour suprême. Elle joue un rôle majeur en Inde. C'est plus important même que aux États-Unis. Et puis, troisièmement... Ces ONG, cette société civile, je veux dire, il y a des millions d'ONG en Inde qui résistent à ce populisme-là. Donc si vous avez des institutions démocratiques solides, moi j'ai peur que la France a peur de ce genre d'expérience parce que ces institutions ne sont pas assez solides.
C'est marrant parce que vous parlez de l'expérience populiste, en fait, comme si au fond, et là y compris dans 3 mois en Inde, on verra bien, vous l'avez dit, il ne faut jamais tuer la peau du tigre avant de l'avoir tué, mais comme si au fond... Quoi, les gens vont rentrer dans le rang, c'est ça? Parce qu'on a déjà vu que le parti du Congrès était en train de se refaire une virginité, qu'ils referaient pas les mêmes erreurs de corruption qu'ils ont fait avant. On a remis sur place, c'est la petite fille d'Indira Gandhi, autant que je sache. Donc on a toujours une Gandhi dans la poche qu'on peut aller mettre quelque part sur le devant de la scène. Donc est-ce qu'au fond c'était une parenthèse? Est-ce qu'on vit déjà comme ça ou pas?
Ce sont des mouvements profonds à l'échelle de la planète. Vous pouvez pas dire que Trump c'est une parenthèse, que Modi c'est une parenthèse. Moi ce qui m'intéresse, c'est ça exprime des problèmes profonds. La meilleure analyse qu'on puisse faire, je pense, c'est la question de la hyperconcentration ou de la décentralisation comme réponse à ces problèmes. Ce qui est réfléchi en ce moment en Inde, c'est le schéma suivant. Modi ne remporte pas les élections. On a donc une coalition de partis. Ces partis, c'est pas le Congrès qui est le cœur. Ce sont les partis régionaux. Des régions là-bas, c'est 100 millions d'habitants. Partis régionaux. Le West Bengal, il s'identifie d'abord comme Bengali. Modi, son échec, s'il y a un échec. Et Trump, son échec, s'il y a un échec. Et il y aura, je pense, un échec. C'est l'hyperconcentration des pouvoirs. Et ça nous interroge sur la France. Parce que c'est finalement les mêmes thèmes qui ressortent. Les populismes ne prennent ces formes, et dans le cas de l'Inde, c'est très net, exacerbé, que parce que le pouvoir est de plus en plus concentré à l'échelle de la planète. Ça ne marche pas pour l'instant en Chine. Ils vont être très vigilants. Ils en ont peur, d'ailleurs. Mais dans le cas de l'Inde, son expérience est très importante pour nous parce que si les partis régionaux, et je pense que c'est ça qui va se passer, vont être la plus grande forme de résistance au populisme, qui est en fait un populisme idéologique, droite-gauche, n'est-ce pas ? Si vous rentrez dans une démocratie régionale décentralisée, vous n'avez plus ces enjeux clivant les sociétés et qui obligent à ce moment-là à m'identifier comme hindou, comme musulman, comme ceci, comme cela.
Qu'est-ce qu'il en dit ? Vous n'en savez rien, mais est-ce qu'il l'a senti ça, selon vous, Modi ? Est-ce qu'il sent son pays comme ça ? Est-ce qu'il peut y avoir une forme de virage, justement, pour garder ce pouvoir ?
Non, je suis persuadé que non, sur la base des gens très très proches qui travaillent avec lui. J'ai des amis, ça reste des amis, et ça m'intéresse de comprendre comment il raisonne. Le Premier ministre indien, parce que c'est New Delhi à la tête d'un milliard 300 millions d'habitants, s'est enfermé dans un château. Vous savez, le mot château ressort souvent sur la planète de nos jours. Et ce château, c'est ce qu'on appelle le PMO, Prime Minister Office. Il n'écoute plus personne. Donc, c'est une bête qui a émergé dans les années 80.
C'est la bulle de l'Élysée version indienne, alors.
Ah, je ne sais pas. Je vous laisse la responsabilité. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a effectivement, au haut niveau de la planète, des problèmes transversaux. On les identifie relativement bien. Ce leader est charismatique, il est très populaire, il ne faut pas croire qu'il va... Même s'il perd les élections, il restera extrêmement populaire. Il vient du peuple, ça c'est important. il y a aussi dans ce populisme-là, le mot populaire, on recherche des dirigeants qui sont plus populaires que la dynastie des Gandhi. Simplement, le risque, et on l'a vu avec Modi, c'est qu'ils prennent une idéologie à ce moment-là dangereuse pour cliver en leur faveur.
Alors, on n'y est pas encore, hein, les élections, non. C'est dans 3 mois, on n'a pas de date exacte d'ailleurs.
En gros, ça va être mai-juin.
Bon, ben voilà, donc vous aurez l'occasion de revenir, on adore vous avoir dans Un gentil. Jour dans le monde, Jean-Joseph Boileau. Merci, mais une fois, merci beaucoup.
France Inter, Fabienne Synthès. Un jour dans le monde.
La suite ce soir, à la recherche d'un girafon désespérément pour lui sauver la vie. Tiens, je vous emmène en Centrafrique avec des anti-braconniers qui prennent soin de Christelle la girafe sous les radars et Virginie Pironon, notamment avec des sorcières russes. L'Europe telle qu'on l'aime ou qu'on la quitte à 100 jours ou presque des élections avec Angélique Bouin qui nous fera un mode d'emploi du scrutin et puis le monde à l'envers. Jean-Marc Four, bonsoir.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Tiens, dans cette histoire, Siemens Alstom, vous voulez prendre la défense de la commission.
Cessez le feu, on lui fait un mauvais procès.
Eh ben écoutez, on verra ça ensemble tout à l'heure, il sera 18h55, le tour de la planète continue. Il passe par Buffalo aux États-Unis avec Mercury Rave, Big Boss Man. C'est dans la playlist d'Inter.
Big Boss Man, can you hear me when I call? Big boss man, can you hear me when I call? Oh, you ain't so big, you're just tall, that's all. You got me working, boss man, working round the clock. Want me a drink of water, but you won't let me stop. Big boss man, can you hear me when I cough? Oh, you ain't so big, you're just tall, that's all. Boss man, one gonna treat me right. Work him hard in the daytime, but I'll sure rest easy at night. Big boss man, can you hear me when I call?
Big boss man, can you hear me? Demande Mercury Rêve, c'est sur France Inter.
France Inter.
Good evening and welcome.
Расмахивал копьем.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Sous les radars et Virginie Pironon. Virginie, on commence ce soir avec le soulagement des défenseurs des droits de l'homme au Royaume-Uni.
Soulagement, car une quinzaine de militants viennent d'éviter la prison. En Angleterre, ils sont connus sous le nom des Stansted 15. Stansted, du nom de l'aéroport du nord-est de Londres. 15, parce qu'ils étaient 15 ce 28 mars 2017 à s'enchaîner à un avion. À l'intérieur de l'appareil, sur le point de décoller, 60 migrants, venus pour la plupart d'entre eux du Nigeria et du Ghana, sur le point d'être expulsés. Cette action a empêché le décollage de l'avion et 11 personnes qui devaient être expulsées ce jour-là ont pu faire appel de leur cas et ont été autorisées à rester au Royaume-Uni. L'affaire, évidemment, ne s'est pas arrêtée là. Le groupe d'activistes a été reconnu coupable en décembre dernier d'avoir mis en danger la sécurité de l'aéroport et a été inculpé pour terrorisme. Résultat, âgés de 27 à 44 ans, les membres du groupe était passible de la perpétuité. Mais ils sont sortis libres hier du palais de justice de Chelmsford sous les acclamations d'une centaine de leurs soutiens. 3 d'entre eux ont été condamnés à de la prison avec sursis. Les charges de terrorisme pour cette action pacifique n'auraient jamais dû être retenues, selon eux. Et même si c'est le soulagement, ils vont continuer, disent-ils, à se battre pour les droits des migrants.
Our flight was a small window into a much bigger systemic problem. We know that for all of the.
C'est en tout cas ce qu'affirme l'une d'entre eux, Ruth Potts, à la sortie du tribunal, qui affirme vouloir se battre encore pour que les migrants déclarés illégaux dans un premier temps par les autorités puissent faire appel. Une chose est sûre, Fabienne, cette affaire qui dure depuis 2 ans a marqué le pays. Les Stansted 15, soutenus par Amnesty International, sont comparés à des figures héroïques de l'histoire britannique, comme par exemple à la suffragette Emily Davison, chantre de la désobéissance civile, morte en 1913 dans son combat pour le droit de vote des femmes.
Eh bien dites-moi, en Russie, elles votent, elles aussi, les sorcières russes apportent leur soutien à Vladimir Poutine.
Et je ne pouvais pas ne pas partager ça avec vous, Fabienne, parce que des sorcières qui tentent d'insuffler leur énergie mystique à Vladimir Poutine, eh bien, on n'en parle pas tous les
comme
jours.
Je l'avais besoin
de ça. Ça s'est passé mardi dans le centre-ville de Moscou. Elles étaient quelques dizaines à participer à ce rituel très puissant, paraît-il, appelé le cercle de pouvoir. Ça ne s'invente pas. Grimoire en main, robe et capuche noire, ce sont des sorcières bienveillantes qui veulent améliorer les conditions de vie des Russes.
В стране, сами знаете, обстановка достаточно тяжелая.
Voilà, le pays traverse une situation difficile, dit Irina la sorcière, et nous voulons soutenir notre président grâce aux forces qui sont les nôtres.
Alors, en ce moment, moi je suis en train de me refaire tout Game of Thrones et je peux vous dire, les sorcières, ça fait peur. Allez, l'Italie d'abord, dans une situation difficile, c'est le moins qu'on puisse dire. En ce moment, on a des soucis avec les Italiens. Parlons de choses qui détendent un peu plus et qui passionnent les habitants de l'Italie en ce moment, c'est le festival de musique italienne, le festival de San Remo.
Festival dont c'est la 69e édition cette année. Un monument, le festival a commencé avant-hier, mardi, et dure jusqu'à samedi. Soirée retransmise en direct à la télévision, mélange de chansons, de sketchs, de danse, avec des petits nouveaux et d'autres plus connus, comme par exemple Andrea Bocelli, invité d'honneur le premier soir.
Resta una luce t'illuminerà.
Et le show fait un carton chez les Italiens. Pour la deuxième soirée hier, ils étaient un peu plus de 10 millions devant leur télé. C'est la moitié des audiences de la soirée. Côté compétition, il y a 24 artistes. Aucune élimination jusqu'au dernier soir. Le vainqueur sera désigné samedi. Et selon la tradition, c'est lui qui représente le pays au concours de l'Eurovision qui aura lieu cette année en Israël, à Tel Aviv, le 18 mai. Et je ne veux pas tuer le suspense, mais Fabienne, ça ne sera pas Andrea Bocelli parce que lui, évidemment, il est hors compétition.
Ah ben, heureusement que vous nous le dites parce que j'étais très inquiète. Merci beaucoup Virginie Pironon.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Mexique.
Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo.
Les routes France Inter.
Et c'est en Centrafrique que nous emmène ce soir l'escale reportage d'un jour dans le monde. Vous remarquez que j'ai envie de chuchoter parce qu'on est dans la jungle. On ne va pas parler de guerre, on ne va pas parler de sang. On va plutôt parler d'une autre guerre, tiens, celle qui consiste à protéger les animaux en voie de disparition et notamment les girafes. Nous partons à la poursuite d'un girafon. Bonsoir Saber Jeanboudi.
Bonsoir Fabienne.
Saber Jeanboudi, pardon. Ce soir, vous nous emmenez dans le parc de Bamingui-Barangan. C'est dans le nord du pays, où un groupe de 45 anti-braconniers patrouille tous les jours dans une zone de plus de 10 000 km². Et le but, c'est protéger Christelle, la petite girafe. Vous nous y emmenez avec les éco-gardes.
Le sergent Eric et ses hommes, des surveillants pisteurs, s'entraînent à la lutte anti-braconnage dans la réserve du Bamingui. Demain, ils partiront rejoindre un campement perdu en brousse. Leur mission, surveiller Christelle, une jeune girafe d'environ 2 ans. Le camp est à 35 km, mais impression de marcher des siècles. L'accès est très difficile, à pied, à moto, dans un radeau de fortune. On arrive, c'est la nuit. Cacophonie d'animaux sauvages et d'insectes tropicaux.
C'est un grand calao.
Un calao ?
Calao, oui. En plus, ce sont des insectes nocturnes. Ce sont les animaux nocturnes. Même pour l'instant, il y a un oiseau qui crie. Vous attendez? On attend souvent, il y a des hyènes qui crient aussi.
Des hyènes?
Il y a des hyènes, oui. des singes. Il y a des guibes aussi qui vont crier. Il fait comme ça.
En plus, il fait froid. Installé autour du feu, une boule de manioc en guise de repas, Simplice, surveillant pisteur depuis une dizaine d'années, raconte ses faits d'armes et sa blessure.
Nos accrochages toujours avec les Soudanais et les Tchadiens, ce sont des combats fatals. Ce sont aussi des guerriers lourdement armés. Vous voyez ça ici, là, c'est avec les Soudanais. J'ai toujours atteint...
C'est quoi dans le coup?
Ça, c'est une balle qui m'a atteint lors d'un accrochage avec les Soudanais. Il m'a atteint par derrière.
19h, l'heure de dormir. Au matin, c'est le silence des criquets.
Là, il allume le feu pour préparer du café là, pour ce matin. Après, on progresse un peu à la saline, à 3 km d'ici, là où nous sommes. On va observer la saline pour voir est-ce qu'il y a des animaux, il y a de la girafe.
Vous croyez qu'on va voir la girafe?
Je crois pas, parce que la zone est inondée, mais elle est au bord du secteur, donc il est là.
Tous les jours, depuis quelques mois, les pisteurs naviguent entre les herbes hautes, explorent chaque saline, examinent la moindre empreinte. Objectif, effrayer les braconniers.
C'est la première saline, là où se trouve la girafe. Si on ne le voit pas ici, donc certes, il devait être sur la deuxième saline là-bas. C'est l'empreinte du girafe. Elle est passée hier soir ici. Donc espérons qu'on va le trouver.
Christelle a ses habitudes et dans sa grande solitude, elle peut faire une mauvaise rencontre. Se retrouver par exemple dans l'assiette d'un restaurant de Bangui ou avoir sa tête accrochée dans le salon d'un braconnier.
Elle avait des parents, mais ces parents-là sont tués tous. C'est pas par les étrangers, c'est par les braconniers locaux.
Non, on ne verra pas aujourd'hui la girafe.
Eric n'est pas inquiet, les traces sont encore fraîches et les braconniers fréquentent peu le parc pendant la saison des pluies. En saison sèche, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, la réserve est dépeuplée. Les grands mammifères sont hors des radars ou tout simplement décimés. Heureusement, les braconniers soudanais sont moins nombreux. Mais avec une quarantaine d'hommes pour 21 fusils et 3 pick-up, contrôler les 10 000 km² du parc est impossible. La région est contrôlée par des groupes armés. L'État est réduit à un représentant fantoche et à un drapeau effilé. Colonel Bertrand Dilla, conservateur du parc.
Une fois que je dresse mon PV, la durée de détention sur notre base, c'est 48 heures. Après, on relâche pur et simplement le braconnier.
Il y a 20 ans, le parc de Bamingui-Bangoran, c'était l'Éden. Il y a 10 ans, les braconniers faisaient la loi. Docteur Hilde Van Leu, l'une des responsables du parc.
En 40 ans, on est passé de environ, je dirais, 2000, entre 2000 et 3000 girafes, à peut-être moins de 10 aujourd'hui. Christelle devient un peu le symbole du déclic, quoi. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Si Christelle se fait braconner, ça sera pas une bonne image pour le parc.
Un symbole et une lueur d'espoir. Tout n'est pas perdu, dit-elle.
C'est pas le premier parc que je vois dans cet état. En Afrique, il y en a pas mal qui sont dans cet état. J'ai vu en RDC, Kundulungu, Pemba, même état. Konkwati, même état. Ça, c'était il y a 15 ans, en fait. Moi, j'ai géré un parc pendant 11 ans au Congo. Et quand je suis arrivée en 2004, il n'y avait rien non plus. Et finalement, 11 ans plus tard, tout était là. Donc, au fait, l'essentiel, avec la protection correcte, tu peux faire revivre un parc.
Saber Gendoubi en Centrafrique à la recherche de Christelle la girafe. Donnez-nous des nouvelles si vous retombez sur elle. Merci beaucoup, la pépite de la réserve. En voilà une autre de pépite, tiens, Stevie Wonder, Superstition sur France Inter. Cette chanson, elle est comme nous, elle se bonifie avec l'âge.
Je suis venu vous parler d'Europe.
France Inter, le 18-20.
Così tanti clandestini in Italia non ci sono mai stati per l'Europa.
Un jour dans le monde.
Geniale.
L'Europe telle qu'on l'aime ou qu'on la quitte, celle qui nous ravit ou qui nous agace, l'Europe x27 ou x28, l'Europe tous les jeudis, dans Un jour dans le monde. Bonsoir Angélique Boin.
Bonsoir.
Angélique, on a fait nos petits calculs, les élections européennes c'est dans 100 jours, alors on va pas chipoter, un peu plus, mais enfin pas beaucoup plus. Et si on descendait dans la rue de n'importe quel des 27 ou 28 pays aujourd'hui, pas sûr que tout le monde sache comment ça marche. On va essayer le mode d'emploi du coup, parce qu'il est peut-être temps de se remettre ça en tête. Vous nous rappelez comment ça fonctionne, Angélique ?
Alors rappelons d'abord que le Parlement européen, eh bien c'est la voix, Fabienne, des 500 millions d'habitants de l'Union, et ces élections sont donc un enjeu majeur de la démocratie européenne. On vote tous les 5 ans. Cette année, ce sera entre le jeudi 23 et le dimanche 26 mai selon les pays, le 26 en France. Les citoyens vont élire 705 députés cette fois-ci. C'est 46 de moins qu'en 2014 en raison du départ des Britanniques, mais on n'a pas supprimé l'intégralité de leurs postes. On a en fait redistribué certains. 5 de plus, par exemple pour la France, qui aura 79 députés. 7 autres pays sont concernés. Pourquoi cette redistribution ? Eh bien parce que le nombre de députés est proportionnel à la population des États membres et que certains pays, dont le nôtre, étaient sous-dotés. Alors on vote pour qui ? Pour des candidats à parité homme-femme, présentés sur des listes que vont proposer les partis politiques de chaque pays. En France, on votait pour des listes régionales la dernière fois. Cette fois-ci, retour à des listes nationales, comme dans la plupart des pays européens. Une seule donc par parti. Les listes qui obtiennent plus de 5% des suffrages à l'élection bénéficieront d'un nombre de sièges proportionnel à leur nombre de voix. Les élus rejoindront ensuite des groupes politiques qui existent déjà ou qui se formeront dans le futur Parlement. Précisons qu'actuellement, il y en a 8. On peut citer le PPE, première force politique. C'est le Parti populaire européen qui réunit la plupart des partis de droite et de centre-droit. Les Républicains y siègent, suivi de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates où siège le PS. Il y a aussi la DLE où se trouvent l'UDI et le Modem, les Verts ou encore le groupe Europe des Nations et des Libertés qui réunit des partis d'extrême droite, dont le parti de Marine Le Pen.
Et oui, et c'est là que ça devient intéressant parce que tout ça pourrait être totalement bousculé à l'issue de ce scrutin.
Et oui, parce qu'on s'attend à de gros changements avec la montée en puissance prévisible des partis nationalistes anti-européens. Rappelons qu'en 2014, en France, un chiffre, c'est le parti de Marine Le Pen qui était arrivé en tête avec 25% des voix. Seront-ils un groupe suffisamment important néanmoins pour bloquer la machine législative ? Alors, ils partagent une même défiance envers l'Europe, mais sont souvent assez éloignés sur d'autres questions. On estime donc qu'ils auront du mal à se regrouper. Mais les équilibres vont bouger, sans aucun doute, avec la fin du clivage gauche-droite, les Verts, les centristes qui espèrent faire un score conséquent. On va aussi jouer, Fabienne, un petit peu au chamboule-tout au niveau de la Commission européenne, car les membres changent après ces élections. Il y a autant de commissaires que de pays de l'Union, donc verra-t-on arriver à Bruxelles des commissaires anti-européens ? Eh bien, sachez que c'est une question qui agite la bulle bruxelloise. Il faut savoir que le futur Parlement devra valider ces nominations, et là, ça peut prendre un certain temps. Il y a des commissaires ici qui espèrent peut-être être libérés cet été, rien n'est moins sûr. Autre question importante, qui sera le prochain président de la Commission ? C'est un poste stratégique occupé actuellement par Jean-Claude Juncker. Il y aura sans doute sur le sujet un bras de fer entre le Parlement et les représentants des 27 États membres. Et puis au menu du Mercato également, il y a le président du Conseil européen, de la Banque centrale, entre autres. Fabienne.
Voilà, ça fait beaucoup de monde. Il y a aussi une inconnue de taille. Ce sera la dernière question, Angélique. Évidemment, c'est le Brexit.
Et oui, il y a encore plein de scénarios sur la table. Et la rencontre aujourd'hui de Theresa May avec les dirigeants européens n'a pas fait avancer le schmilblick, il faut bien le reconnaître. On a juste décidé à ce stade de se revoir pour discuter. Donc en effet, la sortie effective du Royaume-Uni de l'Union le 29 mars prochain n'est pas garantie. Et l'une des hypothèses consiste à reculer la date de sortie du Brexit pour se donner encore du temps. Mais combien de temps ? Alors sur le papier, ça peut pas être après le 30 juin, car début juillet siégera ce nouveau Parlement, sans élus britanniques. Impossible donc de voter des lois si le Royaume-Uni était encore dans l'Union. Ce serait en tout cas un vrai casse-tête juridique. Mais peut-être qu'on n'est pas totalement au bout de nos surprises dans cet interminable feuilleton du Brexit.
Ah ben c'est le moins qu'on puisse dire. Chaque jour, une nouvelle surprise. Angélique Boin, en direct à Bruxelles. Merci beaucoup.
Le 18-20, Fabienne Saintès. Sur France Inter.
Le monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, depuis, on va rester un peu en Europe, depuis le refus de la Commission européenne hier donc d'avaliser la fusion Alstom-Siemens, les critiques des gouvernements français et allemands pleuvent contre l'Europe. Et ben vous dites pas du tout, ne tirons pas sur l'Europe, sa position est très logique, c'est votre monde à l'envers.
Franchement, quel tir de barrage, quel mauvais procès aussi depuis hier matin, ça canarde dans la bouche de Paris et de Berlin. Erreur stratégique, décision rétrograde, raisonnement de bisounours. La Commission européenne, pardonnez-moi l'expression, s'en prend plein la poire. Et c'est quand même un peu facile. Pourquoi ? Parce que la Commission s'est contentée de faire respecter le droit tel que les États membres eux-mêmes l'ont défini. Genre là, on fait le choix de jouer au football, mais on voudrait que l'arbitre applique les règles du rugby, parce que sur le coup, on voudrait bien prendre le ballon avec les mains, voyez ? Pourquoi la Commission a-t-elle rejeté la fusion de ces deux entreprises du rail qui, nous dit-on, auraient permis de faire le poids face au développement du géant chinois CRRC ? Elle l'a rejeté parce qu'elle a appliqué les règles fondatrices de l'Union européenne édictées par les membres eux-mêmes. Libre circulation, ouverture des marchés, protection de la libre concurrence et du consommateur, lutte contre les monopoles. Et puis le respect des règles de droit, ça fait plutôt honneur à l'Europe, voire ça distingue l'Europe de toutes les autocraties. Ajoutons pour faire bonne mesure que la commissaire européenne à la concurrence ne manque pas de courage politique en portant cette décision. Margrethe Vestager peut y avoir perdu toute chance de devenir justement la prochaine présidente de la commission dont parlait Angélique Bois à l'instant, puisqu'elle vient de se mettre à dos Paris et Berlin.
Donc la question est de savoir si la commission avait de bonnes raisons de prendre cette décision.
Écoutez, la réponse est plutôt oui, là encore mauvais procès. D'ailleurs, il est très rare que la commission refuse des fusions. Seulement 27 en 30 ans. 7 lors des 10 dernières années. Vous allez me dire, oui, mais 7 sur combien ? 7 sur 3000. Vous voulez que je le redise ? 7 sur 3000. Dans tous les autres cas, elle a dit oui aux fusions, oui à Peugeot, Opel, oui à Thales Gemalto, oui à Essilor, Luxottica, etc., etc. Donc quand la commission dit non, c'est qu'a priori, elle a des raisons, comme il y a 2 ans, par exemple, non au regroupement boursier Deutsche Börse, London Stock Exchange. Et en plus, dans le cas Alstom-Siemens, la commission, en fait, a dit oui sur les 3/4 du dossier. Oui à la fusion sur les locomotives, les tramways, les métros, les trains régionaux. Elle ne dit non que sur 2 volets. Les trains à grande vitesse et surtout la signalisation des voies, un marché qui est technique mais qui est très lucratif. Et elle dit non, pourquoi ? Parce qu'il y aurait eu un risque de monopole avec effet en chaîne négatif, y compris un risque de hausse des tarifs pour les usagers. En plus, elle ne dit pas non toute seule dans son coin. Elle dit non parce que plusieurs autres pays européens et plusieurs compagnies ferroviaires européennes étaient contre. En Italie, aux Pays-Bas, en Espagne, en Belgique. Et puis, cerise sur le gâteau, Alstom et Siemens ont été prévenus il y a plusieurs mois que ces aspects du dossier posaient problème. Et les deux entreprises n'ont visiblement pas apporté de correctif. Donc oui, je radote, taper sur Bruxelles, c'est un peu facile.
Ouais, enfin, sauf qu'enfin, Jean-Marc, le résultat des courses, c'est que l'Europe se retrouve affaiblie face à la concurrence étrangère, et notamment chinoise.
C'est possible, mais ça, c'est pas la faute de la Commission. Le juge, il n'écrit pas les lois, il les fait appliquer. Ce qui est vrai, c'est que cet épisode est révélateur des contradictions européennes. Au moins 2 contradictions. La première, c'est qu'au fil des ans, l'Europe est devenue l'idiot utile de la libre concurrence, le dernier gardien du temple un peu naïf et très zélé d'un concept libre-échangiste qui avait le vent en poupe il y a 30 ans mais qui semble aujourd'hui dépassé, comme une armée si vous voulez propre sur elle mais qui avancerait à découvert sous les tirs des snipers. Donc la vraie question c'est de changer nos propres règles pour s'adapter à un monde devenu sans foi ni loi. Ça peut vouloir dire en effet passer outre les règles de respect de la concurrence, mais surtout ça veut dire mieux se protéger contre les géants extérieurs, limiter l'accès à nos marchés publics, exiger la réciprocité en la matière, protéger nos technologies, nos brevets, contrôler les investissements étrangers au sein de l'Europe, etc. Et puis deuxième contradiction, sur la même, on ne peut pas être à la fois 28 et en même temps vouloir avancer à 2. En l'occurrence, Paris et Berlin sur un projet strictement franco-allemand. Grande union hétérogène et lente à déplacer, ou petite union resserrée mais dynamique. Faites votre choix.
Jean-Marc Fauré, Le Monde à l'envers. À très vite Jean-Marc, merci beaucoup. On reste ensemble pour le téléphone sonne et puis le journal de Sébastien Paour.